Hein, les Bouddhas Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Om Aum. Dans cette orientation et motivation d'éveil, nous allons maintenant voir les dernières stances des 37 pratiques de Bodhisattva. Ce ne sont plus exactement des stances des 37 pratiques, mais ce sont les stances conclusives, c'est la conclusion de Tomé, Gyaltse Mulchu Tomé. Et il nous dit dans sa conclusion, son colophon, d'abord, comment et pour qui il composa cet ouvrage. Et il dit, en suivant le sens enseigné dans tous les sutras, les tantras et traités, et les paroles exposées par les vénérables saints et accomplis, ces 37 pratiques de Bodhisattva furent composées pour le bien de tous ceux qui aspirent la voie des enfants de victorieux. Alors, en suivant le sens enseigné dans tous les sutras, qui compile les paroles du Bouddha, les tantras aussi, qui sont une autre forme des paroles et enseignements du Bouddha, et les traités, les commentaires, dont en suivant tous les grands textes de la tradition, et les paroles de la lignée orale, ou les paroles exposées par les vénérables saints et accomplis de la lignée, ces 37 pratiques furent composées pour le bien de tous ceux qui aspirent à suivre la voie des enfants victorieux, c'est-à-dire des bodhisattvas. Alors, Tomé Sampo nous explique que son enseignement, sa présentation, suit la tradition, s'inscrit dans le droit fil de tous les sutras, tantras, traités, paroles des anciens. Ce n'est pas son invention, ou ce n'est pas son enseignement propre, mais un enseignement véritablement qui s'inscrit dans la transmission de la tradition. C'est là quelque chose d'important, car c'est un des critères de fiabilité ou de validité que l'enseignement transmis procède et suive l'esprit, la vision, l'expérience du Bouddha, des Bouddhas, des éveillés et de toutes les expressions de la transmission. Pour composer un texte traditionnel, il est au mieux nécessaire d'avoir la pleine réalisation, d'être pleinement réalisé, d'avoir la compréhension parfaite de la réalité, ou d'avoir au moins une certaine réalisation. On dit certaines fois d'avoir la bénédiction de cette déité ou d'avoir expérimenté sa présence et reçu un enseignement dans cette présence, dans son inspiration. Et aussi, autrement, au moins, il est nécessaire d'avoir la parfaite maîtrise des différentes sciences traditionnelles et de se conformer à celles-ci pour que l'exposé soit authentique et fiable. Donc, Tomé Sampo avait toutes les qualités pour écrire et composer ce traité. Et il nous dit qu'il l'a fait pour tous ceux qui aspirent à suivre la voie des bodhisattvas. Donc, il a fait ce traité facile à comprendre, hein, 37 points, 37 indications pour les personnes qui ont l'aspiration à suivre la voie de Bodhisattva, l'aspiration à suivre le grand véhicule, la voie ouverte, universelle, qui est la façon la plus directe et la plus profonde pour atteindre l'éveil. Dans ces 37 pratiques, il y a la bonté et la sagesse de l'éveil, la bonté et la sagesse des bodhisattvas. Alors, l'enseignement le plus profond, on peut toujours questionner la profondeur de l'enseignement. Ce qui est important, c'est que l'enseignement nous parle et nous aide. Le meilleur enseignement est celui qui nous fait devenir meilleur. Le meilleur enseignement est celui qui nous aide, qui nous parle là où nous sommes et qui peut nous aider dans notre situation présente. Et c'est le cas de ces enseignements de Bodhisattva, ces enseignements du Mahayana, qui nous apprennent à avoir une attitude saine dans notre vie relative, dans notre vie personnelle, interpersonnelle, de vivre dans la bonté, de la compassion et dans l'intelligence de l'ouverture. Ensuite, dans les deux stances conclusives suivantes, la deuxième et la troisième, Tomé Sampo demande d'avoir à son égard indulgence. Oui, il exprime de façon très humble l'indulgence de ceux qui vont étudier ce traité. Il nous dit « Étant de faible intelligence et ma dextérité étant médiocre, je n'ai pas écrit avec la plaisante stylistique des érudits. Mais m'étant appuyé sur les sutras et la parole des accomplis, je pense bien que ces pratiques des fils de victorieux sont sans erreur. » Donc, son humilité ici est aussi un signe de sa réalisation. Il ne dit pas « j'ai donné un super enseignement, moi qui suis grand, bon, fort, extra, etc. » Mais il a cette humilité qui est une transparence, un signe de non-ego, de non-soi. Et les grands bodhisattvas ont cette humilité, cette transparence. Une parole célèbre dit « L'humilité est comme les branches d'un arbre fruitier qui se courbent d'autant plus qu'elles sont chargées de fruits. » Il s'excuse de ne pas avoir cette dextérité stylistique des grands érudits. Mais en même temps, c'est un effet de style aussi. Même étant appuyé sur les sutras et la parole des accomplis, ayant suivi la tradition, comme nous le disions précédemment, je pense bien que ces pratiques que j'ai exposées sont sans erreur. Dans la stance 3, il continue, il dit « Néanmoins, ces pratiques des fils de vainqueurs étant immensément vastes, profondes et difficiles à sonder pour un esprit comme le mien, je prie les vénérables saints accomplis de bien vouloir m'excuser pour toute contradiction, incohérence ou autres erreurs que j'aurais pu faire. » Donc, il continue en disant, vu la profondeur et la vastitude de l'enseignement, je vous prie de m'excuser pour tous les défauts, les erreurs, les manquements, les incohérences, qui seraient le fait de mon intelligence illusionnée. Je prie les vénérables saints accomplis de bien vouloir m'excuser ainsi pour toute erreur que j'aurais pu accomplir. Il termine ainsi dans cette demande d'indulgence qui est en même temps une façon de d'ouvrir la compréhension sans poser ce qu'il vient de nous exposer d'une façon dogmatique. Et avec légèreté, indulgence, il requiert, et c'est cette humilité qui est la signature du grand bodhisattva qu'il est. La stance qui suit est une dédicace. Il nous dit, par les vertus procédant de cette composition, puisse tout vivant réaliser les sublimes bodhicitta absolus et relatifs, et ainsi, sans habiter en un extrême, samsara ou nirvana, devenir le semblable au Seigneur protecteur, le noble Genrezi. Donc, par toutes les vertus de cette composition des 37 pratiques, puissent tous les vivants réaliser bodhicitta, l'esprit d'éveil, le cœur-esprit éveillé, bonté et sagesse, absolu et relatif, bonté relationnelle, sagesse absolue, puissent tous ainsi s'éveiller aux deux aspects de bodhicitta et sans demeurer en un extrême, sans demeurer dans les concepts extrêmes ou dans les notions extrêmes, fût-ce samsara, nirvana, au-delà de tout extrême, en le non-appui de la voie du milieu, puissent tous les vivants devenir semblables au noble Chenrezi, puisse tout vivant arriver à la réalisation de l'Arya Bodhisattva, que Chenrezi, le noble grand Bodhisattva de la dixième terre, éveillé, doté des trois corps et des saintes sagesses, l'état de Bouddha. Donc, cette dédicace qui conclut et on le fait traditionnellement toujours avec l'importance qu'a la dédicace pour que les vertus de la pratique ne se perdent pas, continuent et s'amplifient. Et la dernière stance est un colophon ou disons, elle situe l'auteur et les circonstances de la composition. Thomas Sampo nous dit, pour le bien d'autrui et le sien propre, Thomas, qui professe assidûment texte et logique, composa ceci à la grotte du précieux Mercure. Alors, la grotte dont il parle, le précieux Mercure, ou la grotte du joyau, Rinchenpu en tibétain, et l'ermitage où vivait Thomas Sampo, c'est dans le Tibet central, un endroit qui s'appelle Ngulchu, et Ngulchu signifie Mercure, d'où le nom de cette grotte. Donc voilà, Thomas Sampo dans la grotte de Ngulchu, au Tibet central. Et dit, moi qui professe assidûment tête et logique, qui suis versé ainsi dans la compréhension de la tradition, composa ce texte. Et Thomas, son nom signifie littéralement sans obstacle, sans saisie. Et il est juste de le comprendre comme l'expression de sa réalisation qui était sans obstacle, sans limite dans la compréhension et l'expérience du Dharma. Ainsi, Thomas Sampo composa ce texte et il nous invite à le suivre, le pratiquer pour réaliser bodhicitta pour le bien de tout vivant. Toute vertu ainsi pratiquée et sans aucune appropriation, dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.